que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Bien, comment promouvoir le leadership féminin dans les institutions internationales? C'est le premier thème de cette émission et nous allons l'aborder avec notre invité Patrick Tchibouri, assistant chargé de la sensibilisation à la CPI-RDC. Encore une fois, bonjour Patrick.
Bonjour.
Alors, leadership, qu'est-ce qu'on peut entendre par là?
Oui, alors je crois que de manière générale, ce que l'on peut saisir par le leadership, c'est cette possibilité, cette capacité de pouvoir conduire, de pouvoir diriger, de pouvoir être à la tête des initiatives, en d'autres termes, de pouvoir prendre des responsabilités. Mmh. C'est celui qui peut conduire, peut diriger une équipe, conduire une structure, prendre des responsabilités, en prenant des responsabilités également prendre des risques et savoir les assumer. Et donc c'est toute cette capacité, ce pouvoir, cette faculté qui permet à une personne, à une femme d'être considérée comme étant un leader.
Voilà. Et pourquoi aujourd'hui il faut promouvoir le leadership féminin?
Oui, il faut pouvoir le. D'abord, il est important de relever que pour la Cour pénale internationale, notamment pour nous de participer à un sujet comme celui-ci, c'est dans le cadre de la campagne qui est lancée depuis le 25 novembre, de la campagne de lutte contre les violences faites aux femmes, les 16 jours d'activisme, donc il va prendre fin le 10 décembre. Dans cette campagne, on ne défend pas simplement la femme comme étant victime des violences, mais on devrait aussi en amont être en mesure de pouvoir responsabiliser la femme à tous les postes de responsabilité et considérer que la femme, en tant qu'une personne humaine, la femme peut assumer des responsabilités. Elle n'est pas simplement là pour exécuter, mais elle a la capacité également de pouvoir diriger, de pouvoir entreprendre et de pouvoir assumer ses responsabilités, de pouvoir prendre des risques. Et donc, de ce fait, elle ne devrait pas être diminuée en faveur de l'homme. Elle devrait avoir les mêmes chances, les mêmes possibilités d'accéder à des postes de responsabilité les plus élevés.
Alors déjà au niveau de la CPI, qu'est-ce qui est fait pour promouvoir le leadership féminin?
Oui, au niveau de la Cour pénale internationale, nous avons une approche qui est d'abord une approche basique, c'est-à-dire basée sur les textes même de la Cour pénale internationale, parce que le statut de Rome de la CPI, qui est un peu la constitution de la CPI, la Bible de la CPI, ne prévoit pas seulement les crimes de la compétence de la Cour. Ce statut parle également de l'organisation du fonctionnement de la Cour, et dans l'organisation du fonctionnement de la Cour, il est écrit clairement dans le statut de Rome que parmi les personnels de la Cour, que ce soit au niveau du bureau du procureur, au niveau du greffe, dans tous les organes de la Cour, il doit être fait une représentativité équitable des hommes et des femmes. Donc c'est déjà là un grand pas, un apport très important, parce que les États qui ont créé la Cour pénale internationale n'ont pas voulu que ce principe de représentativité équitable des hommes et des femmes soit simplement un principe qui est mis en œuvre au regard du mouvement, de l'avancée, du développement de la communauté internationale par rapport au sujet, mais ils ont voulu l'inscrire dans les textes même de la Cour pénale internationale, dans le statut de Rome même, qui est un peu la base de la Cour pénale internationale.
On parle de la représentativité équitable.
Représentativité équitable des hommes et des femmes, ce qui voudrait dire, c'est que nous avons les hommes et les femmes qui sont au même pied d'égalité et qui ont la même possibilité d'accéder à tous les postes de responsabilité. Donc au niveau de la Cour pénale internationale, il n'y a pas
de femmes aujourd'hui. Combien de femmes aujourd'hui à la CPI occupent des postes de responsabilité?
Nous avons plusieurs femmes. D'abord, si nous devons commencer par un organe, l'organe qui est chargé de mener des enquêtes et de poursuivre les auteurs de crimes internationaux au niveau de la Cour, le bureau du procureur, aujourd'hui ce bureau est chapeauté par une femme. Si nous voyons les juges, nous avons 18 juges au niveau de la Cour pénale internationale, vous avez plus de 5 de ces juges qui sont des femmes. Si vous regardez dans d'autres organes comme au niveau du greffe, aujourd'hui c'est vrai, nous avons un nouveau greffier, le greffier M. Herman Van Ebel, mais avant que nous ayons le greffier actuel, l'ancienne était une femme, Sylvana Arbia. Et si vous regardez les différentes sections de la Cour pénale internationale, vous allez voir que dans les sections à des postes de responsabilité number one, vous avez des femmes. Je donne l'exemple de la section de ressources humaines. De toute la Cour pénale internationale, la chef de ressources humaines, comme je le dis, c'est une femme. L'unité médicale de toute l'institution est chapeautée par une femme. Vous voyez d'autres sections. Par exemple, la section de l'information publique, dont nous faisons partie, dans laquelle je travaille personnellement, cette section est chapeautée par une femme qui est responsable de l'accession de toute la section de l'information publique. Si vous allez, par exemple, au niveau du bureau, ce qu'on appelle le bureau du conseil public pour les victimes, c'est une femme qui chapeaute. Donc vous voyez que vous avez déjà en amont, au niveau des organes, vous avez également une présence des femmes. Mmh. Et lorsque vous descendez à nouveau des structures, des sections qui dépendent des organes, vous avez également une présence
féminine.
Des femmes. Oui.
Voilà, donc on peut dire qu'au niveau de la CPI, il n'y a pas de problème. La femme est suffisamment, elle est représentée à tous les niveaux.
Ce qu'on peut dire, c'est oui. qu'effectivement, selon ce qui a été exigé par les États partis en l'inscrivant dans le statut de Rome, parlant de la représentativité équitable des hommes et des femmes, l'on peut dire qu'aujourd'hui, effectivement, la Cour pénale internationale fait partie de ces organisations internationales qui peut être considérée comme étant un modèle, un exemple, en ce qui concerne le leadership féminin, en ce qui concerne la responsabilisation des femmes à différents postes de responsabilité.
Alors, à part la CPI, est-ce que vous, en essayant de regarder les autres institutions internationales, est-ce que vous avez l'impression que la femme est suffisamment occupe des postes de responsabilité, comme on l'a dit?
Oui, je crois que de manière générale, lorsque vous regardez dans les organisations internationales, il est même, c'est un peu le cas, lorsqu'il y a des offres d'emploi qui sont lancées, même dans les organisations internationales, généralement, de plus en plus, on fait comprendre que les candidatures féminines
sont encouragées,
oui. pas favorisées au détriment des hommes, parce que ce qui entre en jeu, c'est la compétence, c'est les capacités. L'on reconnaît que les femmes peuvent avoir autant de capacités que les hommes, et donc lorsqu'il y a des possibilités d'emploi, des postes les plus élevés, on donne l'accès aux hommes et aux femmes. Mais on encourage effectivement les femmes à pouvoir postuler. Donc il y a cette logique, il y a cet esprit de leadership, de promotion du leadership féminin qui se retrouve effectivement dans plusieurs organisations internationales.
Des questions et préoccupations, appelez-nous au 081-890-63-94. Comment promouvoir le leadership féminin dans les institutions internationales? C'est le thème que nous abordons dans cette première partie du magazine Okapi Service. Pour participer, je le rappelle, appelez au 081-890-63-94.
Kinshasa accueille du 21 novembre au 19 décembre la première biennale de l'art contemporain Yango autour du thème avancé. 25 artistes venus d'Asie, d'Europe, des Caraïbes et d'Afrique présentent leurs œuvres dans plusieurs sites, l'Académie des Beaux-Arts, le Centre Wallonie-Bruxelles, l'Institut Français et l'Échangeur de Limité. Au menu, des expositions, installations, performances, ateliers, conférences débats, workshops et spectacles de musique. La Biennale Yango est un événement de l'agence de production Mutotu en collaboration avec Radio Capi.
Comment promouvoir le leadership féminin dans les institutions internationales? Sadi Ngembo nous appelle de Matadi dans le Bas-Congo. Bonjour Sadi.
Bonjour, je salue aussi l'invité.
On vous écoute.
Ma préoccupation, je voudrais un peu demander à l'invité, pourquoi toujours chercher à promouvoir le leadership féminin? Je prends l'exemple, je peux lui poser la question. Les États-Unis, le pays peut-être de la plus vieille démocratie, est-ce qu'on parle de ce problème ici? Je ne pense pas que les femmes sont marginalisées là-bas, mais je pense qu'ils cherchent l'équité dans tout et puis c'est fini. S'il y a une femme qui mérite, on la choisit. Mais on ne peut pas chercher à avoir une parité parce qu'il faut des postes. Nous voulons qu'un poste soit occupé par une femme, même si on ne trouve pas une femme compétente. Les lois sont là qui donnent l'équité pour tout le monde. Et c'est fini. On ne doit pas chercher maintenant à avoir une couche de la population, peut-être, et vous cherchez à les pousser en avant. Comment chercher seulement à promouvoir les leaders? Je prends l'exemple, les États-Unis, ça ne pose pas un problème. Ce discours de la parité, on n'en parle pas là-bas.
Bien, merci, Monsieur Sadingembo. Alors, la question, c'est quoi votre question? Vous dites pourquoi il faut chercher à... Pourquoi on cherche toujours à promouvoir les femmes? Bien, merci Sadi. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire, Patrick?
Non, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que il n'y a pas de favoritisme qui doit être accordé aux femmes. C'est le principe fondamental, c'est que les mêmes opportunités doivent être données et aux hommes et aux femmes. Les femmes ne doivent pas être discriminées par rapport aux hommes en ce qui concerne des postes de responsabilité, mais à compétences égales, chance égale. C'est ce qui est fondamental. On ne va pas prendre une femme qui n'a pas les compétences pour la mettre alors qu'il y a un homme qui a les compétences qu'il faut pour ce poste-là. On prendra la femme qui a les qualités, les compétences qui sont exigées pour ce poste afin d'assumer ce poste de responsabilité. Et donc c'est ça le principe fondamental qui relève. Si aujourd'hui on insiste, par exemple dans les textes, on insiste dans les législations pour parler de cette représentativité, c'est peut-être parce que on voudrait pas le laisser au libre choix des uns et des autres, dans la mesure où vous avez l'influence de culturelle, l'influence sociale, où dans certaines cultures on considère que la femme ne peut pas prendre responsabilité, la femme ne peut pas diriger, ou certaines
Alors,
cultures...
Alors, à part l'influence culturelle, quels sont les autres obstacles au leadership, à la promotion du leadership féminin?
Vous avez l'influence culturelle, vous avez l'influence sociale, vous avez l'influence également sociologique, certes, mais vous avez l'influence qui est liée au concept, c'est-à-dire que vous pouvez retrouver des hommes qui considèrent qu'ils ne peuvent pas être dirigés par une femme, qui considèrent qu'ils ne peuvent pas se mettre sur une table et recevoir des instructions venant d'une femme.
Mais il semble qu'il y a aussi des femmes aussi qui se sont mises dans la tête qu'elles ne peuvent jamais diriger les hommes.
Mais c'est justement ces prérequis, ces blocages qui font qu'aujourd'hui, même dans les offres d'emploi que nous recevons, que des organisations envoient, ils insistent pour encourager les femmes, justement pour les pousser à sortir de ce concept culturel peut-être dans lequel ils se sont retrouvés involontairement. Ils ont grandi dans cet environnement sociologique, culturel, au point où ils ont pris ça comme étant un acquis. Ça veut dire qu'elle, en tant que femme, bien qu'ayant étudié, bien qu'ayant des compétences requises, elle, en tant que femme, elles se disent qu'elles ne peuvent pas se mettre sur une table avec des hommes et donner des instructions. Ce n'est pas forcément lié à leur propre volonté, mais c'est lié à des facteurs externes dans lesquels ils ont évolué et qui ont fait qu'elles ont pris ça comme étant des acquis. C'est pourquoi, justement, on encourage les femmes à sortir de ce carcan, on encourage d'avoir des législations pour ne pas laisser ça à la liberté des uns et des autres, mais aucunement il s'agit ici d'un favoritisme, il s'agit ici de prendre des femmes qui n'ont pas les compétences requises et mettre de côté des hommes qui ont les compétences requises. Non, il s'agit ici de considérer l'homme avec la lettre H majuscule et non pas l'homme avec homme en tant que sexe masculin, mais en considérant les hommes avec la lettre H, en disant on donne la possibilité à l'homme, homme ou femme, on leur donne la possibilité d'avoir des postes, de pouvoir exercer leur leadership sans considération de leur sexe. C'est ça le principe qu'il faut retenir à l'esprit, et c'est ce principe qui est mis en œuvre également au niveau de la Cour pénale internationale en tant qu'organisation internationale judiciaire. Ce principe qui est, comme je l'ai dit, qui est établi dans le statut de Rome et qui est mis en œuvre dans la pratique.
D'accord. Aimé Minakou, vous êtes à Isiro. Malonga nous appelle des Banonouville. Aimé Minakou, bonjour.
Bonjour, je dis au début de la semaine à tout le monde.
Bien, merci, on vous écoute.
Oui, j'ai une seule question de savoir. Oui, j'aimerais que savoir quels sont les bénéfices qui sont pris pour promouvoir même les femmes rurales qui ne prennent pas conscience qu'elles aussi peuvent être à la tête pour diriger même les hommes. Alors, quelles sont les dispositions prises pour promouvoir les femmes rurales dans la société?
Bon, mais aujourd'hui, on parle particulièrement du leadership féminin dans les institutions internationales. Donc,
quelles sont les dispositions prises alors pour promouvoir les femmes? Les femmes surtout rurales qui ne prennent pas conscience dans les institutions internationales.
D'accord, merci. Malonga, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour aujourd'hui et bonjour à notre invité.
On vous écoute.
Oui, je peux dire seulement et demander, est-ce que tous les chefs sont des leaderships? puisque dans les organisations internationales, il y a des chefs qui ne peuvent pas vraiment conquérir toutes les étapes du leadership. Ce que je veux demander à notre invité de m'expliquer, est-ce qu'être seulement un chef dans un département comme ça, ou bien dans une fonction directement qui assume le leadership, ou bien le leadership, on peut l'acquérir, ou bien on peut devenir un leadership, ou bien on est né leadership.
On est leader, voilà. Bien, merci Malonga pour cette intervention. Clément, vous êtes à Matadi. Matadi, Clément, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Clément.
Je voudrais poser à l'invité...
Clément, je vais vous demander, s'il vous plaît, veuillez éteindre votre radio. Vous allez suivre à partir de votre téléphone, Clément. Voilà, si vous êtes à côté de votre radio, veuillez l'éteindre et vous allez suivre...
Ça va. Oui. Je vais m'éloigner du poste.
Voilà, veuillez vous en éloigner. Nous parlons de la promotion du leadership.
Alors, ma préoccupation est celle-ci.
Hein. Oui.
Allô?
Oui, on vous écoute, Clément.
Est-ce que pourquoi les femmes ont toujours eu tendance là de subir une discrimination, quelles que soient les compétences, mais elles ont difficile à accéder à un poste de commandement, soit elles sont toujours victimes de concubinage pour accéder à un poste X ou Y, le patron lui demande de céder son corps. Est-ce que prévoit la loi en la matière?
Merci. Revenons à la question de Aimé. Elle parle beaucoup plus des femmes rurales. Est-ce qu'aujourd'hui, une femme rurale déjà peut rêver à faire partie d'une institution internationale, Patrick?
Oui, rien n'est exclu pour les femmes rurales, parce qu'aujourd'hui, l'éducation doit être accessible aux femmes dans les villes, comme également aux femmes rurales. Être dans les milieux ruraux, être dans les villages, ne veut pas dire que l'on devrait être coupé de toute possibilité d'accéder à des postes de responsabilité, évidemment, qui devrait passer par le biais de l'éducation, par le biais de la formation. Donc, c'est tout à fait possible que l'on soit une femme qui vit dans les milieux les plus reculés, dans les villages, dans les territoires, mais une femme qui accède à l'éducation, qui par l'éducation s'est formée, et cette femme peut avoir accès à des postes de responsabilité sans forcément avoir besoin automatiquement d'être dans la grande ville, d'être dans les grandes villes. Donc ça, c'est tout à fait faisable. Tout est fonction des capacités que l'on a et des capacités que l'on peut acquérir, notamment via l'accès à l'éducation, via l'accès à la formation.
D'accord. Et Malonga nous dit, est-ce que le fait d'être chef quelque part fait de vous un leader?
Au fait, le leadership est un concept qui est très large. C'est-à-dire qu'on peut être leader, c'est-à-dire qu'on peut naître avec des talents, des capacités en tant que leader et que l'on peut développer par la suite, mais on peut également acquérir ses facultés pour être un véritable leader. Un meneur d'équipe au niveau, par exemple, de son entreprise, de son institution, on peut le développer. C'est la raison pour laquelle plusieurs institutions, plusieurs organisations prévoient ce qu'on appelle des formations son sein, afin de développer les capacités et les talents des uns des autres. Vous pouvez être chef dans une entreprise
et ne pas être leader,
mais voilà. On peut, au regard de votre évaluation, constater que là, il y a peut-être une faiblesse, il y a peut-être une difficulté, et l'entreprise, l'institution met en place ce qu'on appelle un cursus de formation pour vous permettre de développer vos talents, développer vos capacités. Parce qu'en tant que leader, en tant que responsable d'une équipe, vous êtes appelé à mener cette équipe au regard des objectifs qui sont liés par rapport à votre entreprise.
Influencer.
Donc on peut les développer, ce sont des talents, des capacités qu'on peut acquérir, qu'on doit développer. Ce n'est pas une capacité qui est en vous et qui est automatique, qui reste. Non, vous le développez, vous apprenez chaque jour à pouvoir exercer cette faculté de leader. Oui, donc c'est dans ce concept, dans cet esprit qu'on peut l'avoir. Mais vous avez des gens qui naissent avec ces talents, mais qui au fur et à mesure les développent, Il y en a d'autres qui n'en ont pas, qui ont toujours peur, par exemple, d'assumer des responsabilités, peur de prendre des initiatives, peur de diriger, peur de donner des ordres, parce qu'ils se disent, si je donne un ordre que c'est mal fait, ça va retomber sur moi. Donc, ils ont des postes de responsabilité, mais ils se désengagent pour laisser les autres prendre l'initiative, comme ça, si ça barde, il va se retirer en disant, je n'ai jamais dit ça, c'est les autres qui ont fait. Donc, au fait, ce sont tous ces éléments qu'il faut prendre en considération, et il y a un système qui permet de le favoriser. Et au niveau de la Cour pénale internationale, vous avez, au niveau des ressources humaines, toute une programmation qui est faite, une planification qui est faite pour développer notamment des aspects ou un autre de la part du personnel. Et comme je l'ai dit, les femmes qui exercent des postes de responsabilité au niveau de la Cour pénale internationale travaillent. C'est pour ça que nous avons ce qu'on appelle l'évaluation, qui est une évaluation qui n'est pas faite simplement à l'égard des femmes, hein, vous pouvez être chef, vous avez toujours un chef au-dessus de vous qui vous évalue aussi, qui fait cette évaluation. Donc c'est un système qui existe dans beaucoup d'organisations internationales, dont des évaluations sont faites, des hommes comme des femmes, et on peut améliorer ses capacités, on peut améliorer ses talents.
D'accord. Alors, avant de répondre à la question de Clément, nous avons en ligne Siméon de Calémi et Tembea de Goma. Siméon, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Siméon, vous êtes à côté de votre radio, alors là, ça dérange, je veux vous demander de fermer votre radio, vous allez suivre à partir de votre téléphone, Siméon. Vous l'avez fermé votre radio, c'est fait?
Allô?
D'accord, allez-y maintenant.
Et en fait, merci, je salue d'abord notre invité, je suis étudiant en relations internationales à l'Université de Calémi. En fait, je voulais me poser la question par rapport au débat. Vous ne voyez pas que c'est encore une maladie que vous êtes en train de créer dans la tête de plusieurs personnes, parce qu'aujourd'hui, dire seulement que le leadership des femmes, cela ne voudrait pas dire que toutes les femmes sont appelées à diriger. Parce que moi-même, je me dis, ce n'est pas aussi tous les hommes vraiment qui dirigent. Parler pour le leadership des femmes, moi je disais que ce n'est pas vraiment le temps aussi, ce n'est pas ça ce qu'il faut faire, mais au contraire, nous devons vraiment parler sur les instructions fortes pouvant promouvoir vraiment les femmes, protéger tout d'abord les femmes, parce qu'en principe on ne promouvoit pas quelqu'un pour devenir vraiment chef, mais au contraire pour une bonne façon de diriger les choses, il va falloir que nous un leader soit qualifié, soit compétent.
Siméon, quelle est votre question, Siméon, alors, passez directement à la question. On n'a plus beaucoup de temps. Quelle est votre question?
Allô?
Oui, Siméon, on vous écoute. Quelle est la question? Il n'est plus en ligne, désolé. Timbea, vous êtes à Goma, bonjour.
Bonjour, Radio Capi, bonjour à l'invité.
Bien, soyez bref, Timbea, quelle est la question?
Je voulais, par un exemple concret, savoir de la part de notre invité, quand la femme est promise, qu'est-ce que nous avons eu comme avantage, et quand elle n'est pas promise, quelles sont aussi les conséquences selon son expérience personnelle?
Bien, merci. Alors, Patrick, vous avez la parole. Venons d'abord à la question de Clément, qui parle de certains obstacles à la promotion du leadership féminin. Il parle de cette affaire des concubinages. Une femme, pour être promue, elle doit, le chef, son supérieur, exige de sortir avec elle. Alors, qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à ces genres d'obstacles?
Oui, alors, comme je le disais, même notre intervention sur ce plateau, dans ce sujet, est placé dans le cadre justement de la campagne qui est lancée des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes du 25 novembre au 10 décembre. Mmh. Et ça, c'est une forme de violence que subit la femme également, violence sexuelle,
l'harcèlement
sexuel, oui. Qui porte atteinte à son épanouissement. Elle a les compétences, elle a les capacités, elle a les qualités, mais elle ne peut pas avoir ce poste parce que simplement le chef, qui est un homme, le chef voudrait avoir
des faveurs
sexuelles. Ça bloque, ça empêche. C'est la raison pour laquelle, notamment, justement, on profite de cette campagne pour rappeler aux uns aux autres que la femme doit avoir la possibilité, au même titre que les hommes, d'avoir accès à ces postes de responsabilité. Mais il est aussi important de pouvoir peut-être recadrer le concept de leadership. Il ne faut pas forcément voir leadership dans le sens où on est responsable d'une équipe de 5, de 10 personnes, où on a un poste de commandement. Non, on peut exercer le leadership même dans le poste d'exécution que l'on a. On a un chef, mais vous avez une responsabilité, vous êtes chargé par exemple d'un aspect spécifique du service, vous n'avez pas forcément sous vos ordres une ou deux personnes, mais par rapport à votre travail, vous devez exercer un leadership par rapport à votre travail parce qu'on attend un résultat de ce travail-là. Et vous avez une part de responsabilité, c'est un maillon, c'est une chaîne. Vous faites partie du maillon de la chaîne et vous devez exercer vos compétences de leader par rapport à ce poste. Même si vous n'avez pas des personnes sous vos ordres, vous devez prendre des initiatives, vous êtes appelé à prendre des risques, vous êtes appelé à vous assumer vos responsabilités. Et ça, ce sont des qualités de leader que vous devez exercer par rapport à ce service que vous avez, sous lequel vous n'avez pas forcément des personnes à qui donner des ordres. Donc c'est ce concept large qu'il faut avoir du leader, de ce leadership qui doit être axé justement à tout le monde, au poste de commandement. C'est vrai, on a beaucoup plus la présence des femmes au poste d'exécution, mais au poste de commandement, il faut qu'il y ait également la présence des femmes.
Voilà, il y a Siméon Bécalémé qui dit non, il n'est pas temps de chercher à promouvoir les leadership féminins. D'après lui, il faut chercher à promouvoir des institutions fortes. Et lorsqu'on aura mis en place des institutions fortes, à ce moment-là, on peut parler du leadership féminin.
Oui, institutions fortes devraient se faire également avec la présence des femmes. Pourquoi devrons-nous avoir des institutions fortes telles que le pense sans qu'il y ait la présence des femmes, pour qu'on en vienne à penser aux femmes qu'après avoir ces institutions fortes? Non, organisations, sociétés fortes, elles doivent être construites également avec la présence des femmes. On ne doit pas attendre d'avoir une entreprise, une organisation internationale qui fonctionne pour dire après, maintenant que l'organisation est devenue opérationnelle, on peut recourir aux femmes. Non, dès le départ, c'est comme ça qu'au niveau du statut de Rome, dès sa création de la Cour pénale internationale, en 98, les États dans le statut de Rome ont établi que pour le personnel, il faut une représentation équitable des hommes et des femmes. Donc, on ne doit pas diminuer la présence des femmes en fonction de postes de responsabilité en disant poste d'exécution, femmes, plus de femmes, poste de commandement, moins de femmes. Non, pour tous les postes, le statut dit il faut avoir une représentation équitable des hommes et des femmes. Et ça a été fait dès le départ de la création de la Cour pénale internationale. Donc, nous, besoin d'attendre la formalisation, l'exécution des structures pour après dire, bon, maintenant, comme on est devenu opérationnel, maintenant, voyons voir comment on peut compléter la liste pour avoir une représentativité des femmes. Cette représentativité des femmes, en fonction de leur capacité, de leur talent, et ça c'est important, il n'y a pas de favoritisme, ce sont les capacités, ce sont les talents, étant donné qu'il y en a dans le chef des femmes, ces talents, ces capacités, il faut leur présence dès le départ et non pas attendre d'avoir l'institution qui existe déjà pour penser maintenant aux femmes.
Alors Patrick, aujourd'hui, combien de Congolaises se retrouvent par exemple à la CPI aujourd'hui?
On a parmi le personnel au siège de la Cour pénale internationale, en dehors du bureau de représentation, la RDC, vous avez effectivement beaucoup de Congolais.
Mais au siège,
vous avez un certain nombre de membres du personnel qui sont également de nationalité congolaise. Au fait, le siège, vous avez une représentativité géographique de plusieurs nationalités, mais vous avez également à la Cour pénale internationale, au siège à la Cour pénale internationale, des Congolais qui travaillent là-bas à La Haye, aux Pays-Bas.
Et parmi ces Congolais, combien de femmes?
Il m'est très difficile de vous donner des statistiques exactes par rapport à la présence des femmes, mais je peux vous rassurer que dans cet ensemble de personnel de la Cour pénale internationale au siège de La Haye, où nous avons des Congolais, vous avez également des femmes qui exercent à la Cour pénale internationale au même titre que les femmes des autres nationalités qui sont également représentées au siège de la Cour pénale internationale.
Et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que nous avons des juges, nous avons des femmes aussi très brillantes RDC, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour promouvoir, pour qu'elles accèdent aux plus hautes fonctions au siège de la CEDEAO?
Oui, la nomination, pour ce qui est de la nomination des juges, cette nomination est faite par les États. Ce sont les États partis au statut de Rome qui choisissent les juges. Et donc les États doivent représenter, doivent soutenir, présenter une candidature. Ça peut être une candidature d'un homme ou d'une femme au poste de juge. Et l'élection se fait au sein de l'Assemblée des États partis. Évidemment, il faut les dire, vous avez les discussions avec les autres États qui choisissent ensemble le juge qui sera élu, mais ça, comme je l'ai dit, donc ce sont les États qui choisissent et rien n'empêche à quelconque État parti au statut de Rome, en l'occurrence même la RDC qui est État parti au statut de Rome, de présenter une candidature au poste de juge. Mais ce n'est pas parce qu'un État présentait un candidat que forcément le candidat sera retenu. Tout est fait au niveau de l'élection qui a lieu au sein de l'Assemblée des États partis qui regroupe tous les États qui ont ratifié le statut de Rome, la Cour pénale internationale. Mmh. Mais je voudrais aussi peut-être rebondir sur la question qui a été posée par l'auditrice en ce qui concerne les femmes rurales, pour relever que c'est vrai, on va nous dire que l'accès à Internet est peut-être difficile, mais tous les postes de responsabilité comme d'exécution au niveau de la Cour pénale internationale sont public au niveau du site de la Cour pénale internationale. Et donc, les femmes qui sont dans les villages, qui ont les capacités, parce qu'elles ont accès à l'éducation, que ce soit au niveau universitaire et autres, qui ont accès à l'éducation, oui. Ces femmes peuvent, de là elles sont, évidemment avec la possibilité d'avoir accès à l'Internet, de pouvoir postuler à des postes qui sont publiés au niveau de la Cour pénale internationale. Donc, c'est ouvert, mais évidemment, ce qui est pris en compte, ce sont vos capacités au regard de ce qu'on appelle le job description, vos capacités, et c'est ce qui va justifier si oui ou non vous pouvez avoir ce poste de responsabilité ou pas.
Mais la sélection ne se fait pas au niveau des États, comme vous l'avez dit tout à l'heure, où chaque candidat, de son côté, peut directement
Au niveau des États, postuler. La sélection qui est faite par les États, c'est notamment pour des postes comme ceux du juge, et notamment bureau de procureur, mais pour les autres postes, même, comme je vous ai dit, responsable de chef du budget, chef des finances, tous ces postes sont placés sur le site de la Cour pénale internationale et vous pouvez y accéder. Mais pour les autres organes, bureau du procureur, les juges, le greffier, effectivement, ça se fait au niveau des États. Mais pour tous les autres postes, de commandement comme d'exécution, ces postes sont, lorsqu'il y a un poste public sur le site de la Cour pénale internationale, et toutes les femmes, que ça soit en ville ou en milieu rural, qui ont l'éducation, la formation ou l'expérience qui correspondrait aux tâches qui sont dévolues par rapport à ce poste de responsabilité au niveau de la Cour pénale internationale, ces hommes et ces femmes peuvent postuler, et ces hommes et ces femmes ont la même chance, sans une quelconque discrimination faite au sexe, hommes et femmes ont les mêmes chances au regard de leur capacité, de leur talent, pour accéder à ces postes de responsabilité qui sont publiés sur le site de la Cour pénale internationale.
Alors, est-ce que la CPI tient parfois des rencontres avec les juges, les femmes de la RDC, pour leur parler de ça, les sensibiliser, parfois c'est les mobiliser à pouvoir postuler?
Oui,
pour avoir beaucoup plus des femmes congolaises
Les campagnes, au siège. Les campagnes sont notamment où les informations sont autant que possible communiquées par plusieurs campagnes. Je vous donne un exemple. Il y a eu une campagne qui a été lancée au niveau de la Cour pénale internationale pour motiver les femmes qui sont avocats à pouvoir s'inscrire sur la liste de conseils, parce que nous avons au niveau de la Cour pénale internationale une liste de conseils, et cette campagne avait été lancée justement pour motiver les femmes africaines qui exercent en tant qu'avocats dans leur pays de pouvoir s'inscrire sous cette liste de conseils. Et cette liste de conseils, pour être avocat, vous avez des conditions à remplir, et ces conditions doivent être remplies également par les femmes. C'est pas parce que vous êtes femme que vous aurez un favoritisme pour ne pas remplir ces conditions. Vous remplissez les mêmes conditions, mais on voulait justement, au regard de cette campagne, motiver, informer les femmes qu'elles peuvent s'inscrire, surtout les femmes qui exercent comme avocat, qu'elles peuvent s'inscrire. Donc il y a effectivement cette communication qui est faite par la Cour pénale internationale pour des publics femmes par rapport à des postes spécifiques de pouvoir, à des responsabilités, à des tâches, de pouvoir participer et répondre à ces appels pour exercer en tant que femme. Et dans le cas d'espèce, c'était exercer en tant qu'avocat, inscrit à la liste de conseils de la Cour pénale internationale. Et cette campagne a même eu lieu en RDC, où nous avons justement informé les femmes congolaises qui exercent exerce en tant qu'avocat de pouvoir s'inscrire sur cette liste de conseils de la Cour pénale internationale.
Alors, pour terminer, Patrick, alors, pour promouvoir les leaderships féminins dans les institutions internationales, qu'est-ce qui doit être fait au niveau de l'État, au niveau de la CPI, de la société et des femmes elles-mêmes?
Alors, au niveau de la Cour pénale internationale, l'exemple que donne la Cour, c'est d'abord le fait que cette représentativité équitable est prévue dans le statut de Rome dès le départ. Donc vous avez un soubassement juridique qui existe et dans la pratique, dans la mise en œuvre, vous avez également du concret. Je vous ai donné les exemples qui permettent de l'attester. Donc vous avez d'une part le soubassement juridique qui peut être créé, la structure juridique qui peut être créée, et vous avez maintenant l'autre volet tout aussi important, c'est la mise en œuvre. Et ce sont là justement qu'il faut se motiver les uns les autres pour que ce qui est prévu juridiquement soit mis en œuvre, et c'est un peu le défi, le challenge qu'a la Cour pénale internationale, qu'elle est en train d'essayer de remplir, déjà maintenant avec les exemples que nous avons, pour mettre en œuvre cette obligation imposée par le statut en ce qui concerne le personnel de la Cour pénale internationale, de commandement comme d'exécution, en ce qui concerne ce personnel, au niveau comme personnel comme tel, pour justement exiger que ce qui est prévu soit mis en œuvre effectivement au sein de la Cour pénale internationale, et c'est ce qui est fait.
Bien, Patrick Tchouboui, assistant chargé de la sensibilisation à la CPI-RDC, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Au capé.